Sunwa Assurance IRD RDC qui assure vos biens, votre responsabilité et votre patrimoine financier. Retrouvez-nous à Kinshasa, immeuble Blue Waves Tower. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver pour le dernier volet de notre série d'émissions enregistrées ici au Sénégal. Priorité Santé vous a permis de faire de nouvelles rencontres avec celles et ceux qui ont mis la santé au cœur de leurs préoccupations. Et ici à Dakar, nous avons vu comment cette crise sanitaire a pu fragiliser les populations les plus vulnérables. Ce constat, il est particulièrement vrai en termes d'alimentation. L'UNICEF et le Programme alimentaire mondial le soulignent depuis des mois, sans réponse à la hauteur. Une menace de malnutrition aiguë pèse sur plus de 15 millions d'enfants de moins de 5 ans dans la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Insécurité alimentaire, mauvaise pratique, éloignement des structures de santé, autant de facteurs qui nécessitent une réponse adaptée au niveau hospitalier pour les cas sévères. Et nous le verrons aujourd'hui au travers de nos reportages, des réponses sont aussi apportées au niveau local, des actions concrètes, un accompagnement, un effort pédagogique qui permette d'améliorer l'autonomie, d'atténuer les risques associés à la malnutrition, qu'il s'agisse des retards de croissance sur le plan physique et mental ou de la fragilité face aux infections. Un défi pour les organisations internationales, les gouvernements, les soignants, mais aussi peut-être surtout, jour après jour, maison après maison, un défi pour les acteurs communautaires qui offrent des réponses au plus près des besoins des populations fragilisées par la crise. Impact de la Covid-19 sur la nutrition communautaire et pédiatrique, une émission réalisée en partenariat avec le fonds français Muskoka qui a pour objectif de réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile dans 8 pays d'Afrique francophone. Intervention en centre de santé, démonstration, expérience reproduite à la maison en zone rurale pour les mamans épaulées par des acteurs communautaires et les soignants. Et en marge de nos reportages, nous retrouvons nos trois invités pour comprendre ces risques associés à la malnutrition. On va vous donner la parole. Docteur Jean-Baptiste Diouf, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pédiatre, chef de service de pédiatrie du centre de l'hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye, près de Dakar. Avec nous également le docteur Siméon Nanama, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conseiller nutrition pour le bureau régional UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Autre acteur engagé dans cette problématique à qui nous donnons la parole aujourd'hui, Abdoulaye Ka, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire exécutif du Conseil national de développement de la nutrition.
Priorité santé sur RFI.
Les crises sanitaires qui fragilisent les économies déstabilisent les foyers les plus fragiles, privent de ressources d'appoint. Alors si les enfants ne sont pas au niveau infectieux vulnérables à la pandémie, c'est ce que l'on souligne depuis des mois. En revanche, sur le plan socio-éducatif, on souligne cet impact depuis des mois à tel point que l'UNICEF a sonné l'alerte pour éviter une génération perdue. Conséquences sur l'éducation, le bien-être et notre sujet du jour, la nutrition. Abdoulaye Ka, ce Conseil national de développement de la nutrition au sein duquel vous exercez, c'est donc un organe gouvernemental. Du côté des autorités sénégalaises, quel est le constat aujourd'hui en ce qui concerne la santé sur le plan de la nutrition pour les enfants ?
Au Sénégal, vous savez, par rapport à cette situation nutritionnelle, je dirais que nous sommes dans une situation précaire. Les indicateurs que nous avons avec les enquêtes démographiques et de santé, nous tournons toujours autour de 8% de malnutrition aiguë. Sur le retard de croissance, par contre, nous sommes le seul pays de l'Afrique de l'Ouest avec une prévalence en deçà de 20%. Nous oscillons entre 18 et 16% selon les enquêtes démographiques.
Alors, il y a des variants en fonction des régions, notamment. Est-ce qu'on peut dire que certaines zones du Sénégal sont beaucoup mieux loties, pourvues que d'autres ?
Tout à fait. Quand il s'agit de la malnutrition chronique, les régions du sud du Sénégal sont plus affectées que les régions du nord. On pourrait dire la région naturelle de la Casamance, mais ce sont les régions de Seyou et de Kolda qui sont les plus touchées par la malnutrition chronique. Quand il s'agit de malnutrition aiguë, c'est le nord du Sénégal où nous retrouvons les prévalences les plus élevées.
On a des éléments d'explication pour ces différences ?
Le déterminant majeur, c'est la disponibilité alimentaire souvent. Mmh. Et nous constatons que durant les périodes de soudure au Sénégal, c'est là où nous observons les pics par rapport à la malnutrition aiguë. Et ce sont les régions du nord en général qui sont les plus touchées. La région de Matam notamment, qui a été en proie à plusieurs crises nutritionnelles ces dernières années.
Docteur Jean-Baptiste Dufour, bien distinguer les deux types d'atteintes. On a entendu chronique aiguë, on va tout de suite poser les choses. Est-ce que vous pouvez nous donner des définitions ? Première chose, la malnutrition chronique, qu'est-ce que c'est ?
La malnutrition chronique correspond à une situation où l'enfant semble petit par rapport à son âge.
Et ça, ce sont les courbes de croissance qui permettent de le voir ?
Voilà, c'est les courbes de croissance.
Quel cas nécessite d'être référé vers un hôpital ?
La malnutrition aiguë a plus d'impact sur la santé de l'enfant. Par exemple, au Sénégal, 2/3 des décès de l'enfant sont liés à la malnutrition aiguë. Alors là également, c'est l'indicateur poids-taille, la présence des œdèmes ou le mesure de la circonférence du bras, qu'on appelle périmètre brachial, qui nous permet de classer. Ainsi, pour la malnutrition chronique qui pose de plus de formes, il y a 2 formes symptomatiques, le quatre-corps ou le marasme.
Alors ça, c'est des mots que la plupart des gens ne connaissent pas forcément. Il y a un symptôme qui peut même paraître absolument extraordinaire, c'est quand les cheveux des enfants changent de couleur. On peut trouver ça mignon de loin, mais en réalité, ce n'est absolument pas adorable. On voit des petits enfants donc africains qui ont les cheveux roux. Et ça, ça montre jusqu'où va la malnutrition. On en vient même à changer d'aspect tellement ça nous atteint dans notre chair et dans justement notre organisme.
Qu'il s'agisse du marasme ou du kwashiorkor, il y a des manifestations qui changent le profil de l'enfant. Exemple, dans le kwashiorkor, en général, c'est une situation qui survient chez un enfant aux alentours du sevrage, surtout lorsqu'il est mal conduit, et qui va se caractériser par 3 types de signes. La présence des œdèmes, qu'on ressent d'abord au niveau du dos des pieds, qui sont indolores, et lorsqu'on appuie dessus, ça laisse l'empreinte du doigt. Donc ces œdèmes-là, après le dos des pieds, ils vont toucher les malléoles, la jambe, le dos des mains, et pouvoir même prendre tout le corps. À côté de ces œdèmes-là, il y a les troubles cutanéo microéphanériens. Donc au niveau de la peau, il y a un aspect particulier, une alternance entre une zone de dépigmentation et une zone d'hyperpigmentation. Il y a des bulles qui se forment au niveau de la peau. Il y a également la peau qui perd son élasticité. Au niveau des cheveux, effectivement, les cheveux deviennent secs, deviennent roux, deviennent cassants. Et il y a une perte de cheveux par endroit au niveau de la tête. Et enfin, il y a des troubles psychomoteurs, c'est très important. Donc, ce sont des enfants qui sont tristes, qui sont apathiques, qui pleurent au moindre contact et qui ne se donnent pas vraiment la joie de vivre. Donc, à côté de cette forme-là, qui est sévère, il y a une forme qui est beaucoup plus fréquente dans nos tropiques, c'est le marasme. C'est une forme qui se manifeste aux alentours du sevrage et qui se manifeste par une fonte musculaire, une fonte de la graisse. Donc, ce qui fait qu'au niveau du pieds, on a des jambes qui sont très grêles. Cette fonte aussi se manifeste au niveau du thorax avec les côtes qui sont vraiment bien visibles. Et c'est un enfant aussi qui est triste, qui a tout le temps faim, mais qui ne peut pas malheureusement prendre toute la quantité dont il a besoin.
Docteur Simeon Nanama, quand on entend des choses comme ça, ça donne des frissons et pourtant c'est la réalité pour de plus en plus d'enfants justement à cause de cette crise sanitaire. L'UNICEF qui a dit que dans les pays en développement, la pauvreté des enfants risquait d'augmenter de 15%. Ici au Sénégal, en particulier pour les plus jeunes, est-ce que vous avez au cours de l'année écoulée, justement depuis la déclaration de pandémie de l'OMS, vu la situation se dégrader ?
Je devrais d'abord commencer par dire que la région de l'Afrique de l'Ouest et du centre que UNICEF couvre inclut 24 pays. Et que cette région-là, pour des raisons diverses, faisait déjà face à des taux élevés de malnutrition avant la pandémie. Il y avait 8% des enfants qui étaient en situation de malnutrition aiguë, ce qui faisait 13 millions d'enfants au total, dont 4,1 millions qui souffraient d'une forme sévère.
Donc déjà la situation était compliquée et ça l'a encore, on va dire, ça a encore aggravé cette situation.
Effectivement. Et donc le retard de croissance lui affectait 33% des enfants, ce qui donnait un total d'environ 50 millions d'enfants. Et il faut dire que cette région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre abrite 11% des enfants de moins de 5 ans du monde. Mais elle abrite 20% du retard de croissance totale dans le monde. Quand on connaît les conséquences de ce retard de croissance, de la malnutrition en général, la mortalité, le retard dans le développement cognitif, l'impact sur le développement et la productivité quand on devient adulte, on comprend aisément pourquoi on est inquiet et on pense qu'on est probablement en train de sacrifier toute une génération si rien n'est fait. Et cette situation a été aggravée par la situation du Covid. Les mesures de contrôle qui l'ont accompagné ont placé certains ménages dans des situations difficiles en termes d'accès à l'alimentation. Et cela, plus effectivement le fait que certains pays dans la région sont en situation d'insécurité alimentaire, ensemble ont entraîné une augmentation du taux de malnutrition de 19% dans la région. Ça, c'est le premier impact sur le nombre d'enfants qui sont affectés. Donc maintenant, on parle de 15 millions d'enfants au lieu de 13 millions avant la pandémie. Et le deuxième effet, c'est l'impact pour les enfants qui étaient déjà malnutris et dont l'accès aux services de santé et de soins a été significativement réduit. Et on a noté que, par exemple, les mamans qui avaient accès aux centres de santé pour recevoir des soins comme le fer acide folique, cela a été impacté. Les enfants malnutris qui recevaient le traitement, la fréquentation a baissé de près de 10%. Et les enfants qui reçoivent des suppléments comme la vitamine A, cela a été impacté jusqu'à une hauteur de 50%.
Parce que dans un premier temps, les gens ont eu peur d'aller au dispensaire. Ensuite, la confiance est revenue. Mais au début, c'est vrai que ça a un petit peu écarté les populations générales des services de santé. Abdoulaye Ka, du côté du gouvernement, est-ce qu'on avait vu venir le coup ? On sait très bien que dans tous les pays, il y a eu des mesures en disant aux personnes « restez chez vous, soyez prudents, évitez les marchés ». L'économie informelle aussi qui permettait d'avoir un petit supplément de revenus à beaucoup de mamans, eh bien tout ça, ça s'est arrêté. Est-ce que, en prenant des décisions indispensables pour bloquer l'épidémie, les autorités avaient conscience qu'il y aurait forcément des conséquences sur les plus vulnérables ? Et on sait que les plus vulnérables pour la santé, dans la région, ici, ce sont les femmes et les enfants.
Effectivement, et c'est la raison pour laquelle il nous a été demandé de réfléchir avec les différents acteurs de la nutrition au Sénégal sur une réponse. Nous avons donc très tôt pris en compte les facteurs bloquants par rapport à la délivrance des services de nutrition à base communautaire, ce qui nous a conduit à revoir les protocoles de délivrance de ces services. Parce qu'avant Covid, pour les groupes de pesée, par exemple, de suivi promotion de la croissance, nous pouvions atteindre 50 enfants par session de pesée.
On voyait les files d'attente avec les mamans, voilà. Les bébés, on passait les uns après les autres.
Donc il a fallu déjà assurer la distanciation. Il nous a fallu aussi trouver des ressources pour équiper les sites de nutrition communautaire en produits d'hygiène pour pouvoir prévenir justement la propagation du virus. Et aussi, surtout, protéger les acteurs communautaires, les agents relais communautaires, avec des masques. Et nous avons pu, avec le budget national et aussi avec les ressources que nous avons avec les partenaires, pu financer ce nouveau plan.
Alors, pour bien comprendre les conséquences pour les enfants, depuis tout à l'heure, on parle justement à peu près de la tranche d'âge 0-5 ans. Il y a ces 1000 premiers jours de la vie qui sont montrés comme vraiment une période clé. Mais il y a aussi, évidemment, toute la période de la grossesse, toute la période qui concerne justement la maternité. Et bien nourrir une maman, c'est aussi faire venir au monde un bébé en bonne santé. Ce suivi des mères, c'est aussi quelque chose de très important, qui ont pu, là encore, être éloignés des systèmes de santé. Précisément, docteur Jean-Baptiste Diouf, il y a aussi tout un effort pour faire comprendre aux mamans que leur alimentation, ce sera quelque chose de très important pour la santé de leur bébé à naître.
Bien sûr, Caroline. Une bonne alimentation chez une maman ne peut être que bénéfique pour l'enfant. Plus les bonnes pratiques alimentaires chez l'enfant à partir de la naissance permettent à l'enfant d'avoir un développement harmonieux. Et quand on parle de bonnes pratiques alimentaires chez l'enfant, c'est d'abord l'allaitement précoce, c'est-à-dire alimenter l'enfant au sein de la maman au mieux dans l'heure qui suit l'accouchement. C'est l'allaitement maternel exclusif pendant 6 mois. C'est la diversification alimentaire à partir de 6 mois. Et enfin, c'est la poursuite de l'allaitement maternel jusqu'à 2 ans au minimum.
Des conseils qui sont appliqués sur le terrain, on va en avoir une illustration tout de suite, puisque nous nous rendons sur un site de nutrition, diagnostic, prise en charge. Justement, on va voir comment ces conseils sont prodigués à la population. C'est avec Ophélie Lassène que je vous propose de partir pour Chéri Flo, près de Thiès. C'est environ 1h30, 2h de route de Dakar. Sur place, plus de 4500 habitants, 564 enfants de moins de 5 ans. Un suivi qui commence par l'étape du dépistage, du repérage des cas les plus sévères.
Elle est en train de rechercher les œdèmes bilatéraux pour voir si l'enfant ne souffre pas de malnutrition aiguë sévère.
Parce que si elle souffrait de malnutrition, est-ce qu'on verrait tous des signes au niveau des pieds, c'est ça?
C'est tout à fait ça. Si elle était malnutrie sévère, on allait voir le signe de Godet, c'est-à-dire ça va s'enfoncer, prendre un peu de temps avant que la peau ne revienne. Maintenant, ça signifie que cet enfant-là ne souffre pas de malnutrition aiguë sévère parce que voilà, tout est normal.
D'accord.
À partir de la pointe de l'épaule et au niveau du bas du coude, on recherche le milieu du bras de gauche de l'enfant pour faire la mesure du périmètre brachial.
Très bien, donc là on lui passe une sorte de petit brassard pour prendre la mesure du bras.
Les enfants sont 125.
Donc les résultats, ça donne quoi?
Voilà, l'enfant est à 125 mm. Dans ce contexte de Covid, par rapport à l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, 125 mm, l'enfant souffre déjà de malnutrition aiguë modérée.
Maintenant que le diagnostic il est posé, on passe à... Qu'est-ce qu'on va faire exactement?
Va conseiller la maman, va lui poser des questions d'abord pour voir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi cet état nutritionnel. Ensuite, donner des conseils et certainement donner rendez-vous à la maman pour une prise en charge communautaire ici pour la réhabilitation nutritionnelle.
Et je vois que vous avez aussi un registre de dépistage. Il y a quoi sur ce registre exactement?
Il y a le nom et le prénom de l'enfant, il y a son sexe, date de naissance, prénom et nom de la mère. Il y a le vert qui indique que l'enfant est bien portant. Il y a le jaune qui indique que l'enfant est malnutri. Il y a le rouge qui dit que l'enfant a une malnutrition aiguë sévère.
Donc ici, on est sous un arbre. Il y a un tapis en dessous avec des enfants. Et surtout, on voit accroché à cet arbre un instrument de pesée. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus?
C'est elle qui pèse les enfants tous les mois. Et elle va poser celle qui s'appelle El Hadj. Elle s'appelle donc Lala Fall. Donc elle est une des relais communautaires. D'habitude, on en a deux par site. Donc elle se partage le travail. Elle va poser un des enfants qui est enrôlé dans ce site-là et qui s'appelle El Hadj Diallo, avec sa maman qui est là.
Donc là, on installe le bébé pour qu'il soit pesé. On lui met le petit harnais. Et on l'accroche à la balance. Alors il pèse combien?
6,8 kg.
Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a ce poids? Donc on prend la fiche de l'enfant. Il y a quoi sur cette fiche?
C'est une fiche où on a la courbe de croissance selon les normes OMS. On regarde si l'enfant a gagné du poids, son évolution. Ça, c'est quand l'enfant est malnutri rouge, malnutrition aiguë modérée, ou bien l'enfant a un bon poids sévère. Et chaque enfant a sa fiche et c'est gardé par la maman ou la gardienne, mère gardienne de l'enfant. De l'autre côté,
on a même le carnet de vaccination.
Voilà, exactement. On regarde si l'enfant a reçu tous ses vaccins. Si l'enfant a besoin d'être supplémenté en vitamine A ou bien déparasité, ou bien si l'enfant, pour une quelconque maladie, a été référé vers le poste de santé, on l'inscrit.
Est-ce que là, on va lui donner des conseils pour atteindre le prochain objectif?
Elle lui a donné des conseils de continuer à allaiter le bébé, mais également de commencer à lui donner des légumes, des fruits, de la bouillie enrichie avec la farine, là, vous allez voir tout à l'heure, qui est une farine composée de céréales locales.
Donc tout va bien pour le petit El Hadj pour le moment.
Et c'est très bon.
Vous allez en goûter tout de suite, avant de partir.
Ça m'a l'air d'être chaud.
Oui, attention.
Moi, ça va. Ah. D'accord, okay, merci. Tous les groupes d'aliments regroupent dans cette bouillie. Parce qu'il y a des aliments riches en protéines, riches en aliments énergétiques et riches en vitamines. Et tout ce dont on a besoin, ça s'achète ici, même au niveau local. On a des fruits et légumes. Il y a le niébé, les haricots. Il y a le maïs, il y a le mil, il y a le riz. On a ajouté du poisson fumé et du poisson sec. Il y a de la tomate, il y a des oignons, il y a aussi des épices pour assaisonner.
La relais qui est là, elle a pris un thème aujourd'hui qui est l'alimentation de l'enfant qui est âgé de 12 mois à 24 mois. Mais pour susciter une dynamique au niveau de la causerie, parce que c'est une causerie éducative, pour susciter donc un peu de la réflexion, elle est en train de leur demander « qu'est-ce que vous voyez sur l'image ?» Donc il y a une qui répond « j'ai vu sur l'image une maman en train d'allaiter son enfant. » Voilà. Et l'autre dit « moi, j'ai vu une maman qui est en train de donner à manger à son enfant. » Au fur et à mesure, elle pose des questions et les mamans répondent. C'est comme ça qu'est structuré un peu le déroulement de la causerie. Elle a introduit en amont avec une brise glace. Les femmes ont dansé, c'est pour l'ambiance et tout. Mais après, elle a annoncé le thème. Et après, elle est là dans l'étape déroulement de la causerie.
Voilà pour ce reportage d'Ophélie Lassen à Chérifloe, un département de Tivaouane. Bien évidemment, ce sont les cas les plus modérés qui sont pris en charge à ce niveau, hein, Abdoulaïka. Il est essentiel de connaître le contexte culturel pour viser juste. C'est bien là tout le rôle des agents communautaires. Et notamment, il faut déconstruire peut-être certaines croyances auprès des mamans, auprès des familles. J'ai envie de vous demander tout simplement, par exemple, est-ce que vous avez recensé un certain nombre de préjugés qui peuvent faire blocage pour la prise en charge et aussi conduire, dans certains cas, sans pour autant culpabiliser, à des mauvaises pratiques d'alimentation?
Effectivement, vous savez, au Sénégal, nous avions, en 2013, effectué une étude sur les déterminants de la malnutrition qui nous avait permis de recenser certains comportements, certaines croyances qui constituaient un frein à une alimentation adéquate. Nous avions pu recenser beaucoup de croyances autour du colostrum, par exemple, le colostrum qui est essentiel.
Qui est ce premier liquide produit par la maman.
Par la maman et qu'on qualifie comme le premier vaccin pour le nouveau-né. Le colostrum, dans certaines régions, est considéré comme du lait qui est impropre à la consommation. Pour déconstruire ce type de croyance, toute une stratégie de communication au niveau communautaire, engageant les membres de la communauté eux-mêmes, hein, par l'approche, par exemple, qui consiste à regrouper les grands-mères. Nous identifions les grands-mères comme étant faisant partie du problème, mais aussi faisant partie de la solution. Ou bien des cercles de solidarité de femmes enceintes pour les préparer à ce changement de comportement et aussi dialoguer autour de la question.
Pour bien comprendre, il peut y avoir des infirmières, des sages-femmes qui donnent des conseils aux mamans. Mais une fois qu'elles retournent à la maison, il y a la grand-mère, il y a la tante qui dit « bon, ils t'ont dit ça là-bas, mais ici, on va continuer de faire comme d'habitude. Et puis, tu vas ne pas donner de fruits, tu ne vas arrêter d'allaiter à telle heure. » Tu vas des leçons qui vont pas forcément être très bonnes. Il ne s'agit pas de critiquer, il s'agit d'expliquer.
Il s'agit de dialoguer.
Docteur Siméon Nanama, ce qu'on comprend bien, c'est que ça se joue aussi à plusieurs générations. On va prendre en charge les enfants, on va informer les mamans, on va aussi prendre contact avec les aïeux. Et puis aussi, il y a les jeunes filles pour demain. Ça veut dire qu'il faut agir à tous les niveaux de la communauté.
Pour une bonne nutrition, il y a trois éléments qui sont essentiels. Une bonne alimentation, mais cette bonne alimentation, elle seule ne suffit pas. On a besoin de bons services de qualité aussi. Par exemple, un enfant qui mange un aliment de qualité, mais qui contracte une diarrhée, l'alimentation que l'enfant a eue ne lui sera pas utile. Mmh. Un enfant qui a une bonne alimentation, qui attrape le paludisme, qui fait de la fièvre, les aliments vont être utilisés pour combattre l'infection plutôt que pour la croissance de l'enfant. Donc il faut des aliments, il faut des services, mais il faut aussi des bonnes pratiques. Et c'est de cela que vous parliez quand on parlait de ce qui se passe au niveau communautaire. Il faut engager tous les acteurs dans un dialogue pour créer au niveau communautaire le type de comportement qui va être favorable à la nutrition et au développement de l'enfant. Mais vous avez aussi tout à fait raison que sans être génétique, la malnutrition se transmet d'une génération à l'autre parce que le jeune enfant qui traîne une malnutrition toute sa vie et qui n'arrive pas à récupérer, en particulier les filles, grandissent avec cette malnutrition. Et elles-mêmes, elles vont donner naissance à des enfants qui ont une très grande probabilité d'être malnutris et donc de perpétuer ce cycle intergénérationnel de la malnutrition. D'où aussi l'importance, en travaillant sur les mamans et les femmes enceintes, pour revenir au concept des 1000 premiers jours, en travaillant sur les enfants de moins de 5 ans, il ne faut pas perdre de vue la nécessité de travailler sur les adolescentes. Et c'est ce que nous, à l'UNICEF, nous appelons l'approche cycle de vie, qui est qu'à chaque étape de la vie, il y a des besoins relatifs à la nutrition qui ont besoin d'être adressés.
Cet élément très important que vient d'évoquer le docteur Nanama, je me tourne vers vous, docteur Jean-Baptiste Diouf, c'est la prise en charge globale de la santé des enfants. Là encore, avec la crise du Covid, comme on a pu s'éloigner des centres de santé, certaines infections, certaines maladies assez classiques de l'enfance ont pu être un petit peu négligées, avec des conséquences. Bien sûr, tout ce qui est infection intestinale, la diarrhée, tout simplement, c'est quelque chose de très important dans la croissance de l'enfant. Est-ce que vous avez vu, justement, là encore, des enfants, on va dire, globalement, même si ce n'est pas la faute des mamans, encore une fois, moins bien soignés?
Le constat général, c'est que pendant cette période de Covid, les mamans ne venaient plus pour les pathologies, entre guillemets, les plus bénignes, mais ne se déplacer à l'hôpital quand la situation était extrêmement grave et nécessitait des mesures de prise en charge beaucoup plus ardues. Ça, c'est le constat global. Mais également, on a vu une recrudescence de certaines pathologies qui avaient presque disparu ou qui étaient en phase de disparition qu'on a pu revoir pendant cette période de Covid. Par exemple, c'est des formes sévères de tuberculose, tuberculose à localisation neuroméningée, mais également des pneumonies très, 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 très sévères qu'on voyait à l'hôpital pendant cette période de Covid.
Comment vous l'expliquez?
Alors, l'explication la plus simple qu'on a pu trouver, c'est le retard à la consultation. Habituellement, par exemple, pour un simple rhume, un rhume avec une fièvre, les parents venaient consulter. Mais du fait des restrictions qu'on a pu voir pendant cette Covid, les mamans ne venaient pas et ne venaient que quand l'état était vraiment assez avancé.
C'est particulièrement le cas pour la pneumonie, ça avait dégénéré. Vous restez avec nous, on va se retrouver, on retrouvera nos trois invités dans quelques minutes, juste après Ismaëlo avec ce titre Baïkat, hommage aux travailleurs de la terre. Tout à l'heure, dans quelques instants, on retourne au village, on retournera en cuisine. Baykat bi khalam demon bayne waye bum ga top na mo hey baykat bi khalam demon bayne waye bum ga top na mo la nexe dalal say loxo yay docteur bi fac ki fuas kan bi dika dale singitum rew ba ci miskin ya summe ko du dan sa dole andak nak bi di ligey sa ñakadi tour ngay bay di dukat billahi ya am jom kun jara ma bay kat kufi khir ya kondal bamusur ni waw kufi febar ya kondal akiren bamusur kun jara ma baykat. Priorité santé sur RFI, nous parlons toujours avec nos trois invités de l'impact de la Covid-19 sur la nutrition communautaire et pédiatrique. Avec nous, docteur Jean-Baptiste Diouf, pédiatre, docteur Siméon Nanama, conseiller nutrition pour l'UNICEF en Afrique de l'Ouest, Abdoulaye Ka, secrétaire exécutif du conseil nutrition CNDN, état des lieux, consultation, diagnostic. On va reprendre notre débat tout de suite après cette autre illustration sur le terrain. Comme promis, on retourne sur le site de Chériflo.
Je m'appelle Ndaye Matitop.
Enchantée et merci de m'accueillir chez vous. Merci beaucoup. On va aller voir votre maison, c'est bien ça?
Ok.
On y va, je vous suis?
Ok.
Je vous suis, hein. Là, on part du site où il y a eu toute la campagne d'information sur la nutrition. C'était le reportage de tout à l'heure avec Ophélie Lassène. Donc, on continue d'avancer.
Moi, c'est Adama Sissé-Ndéguen. Je suis la conseillère en communication du CNDN.
Le CNDN, c'est l'instance nationale au Sénégal qui s'occupe en particulier des affaires de nutrition. Alors, merci de nous accompagner. Donc là, il y a, on va dire, quatre maisons, l'arbre au milieu. On s'est arrêté au pied de l'arbre pour se laver les mains. Un peu d'ombre sous l'arbre. Et puis du linge qui sèche. Une dame qui est en train de faire la lessive autour de nous.
Voilà, ici, on est dans son lieu d'habitation. Vous voyez, donc dès qu'elle arrive, elle s'est lavé les mains. Et là, elle va commencer à préparer la bouillie pour son enfant.
Dans cette pièce, il y a une marmite qui est en train de chauffer sur le feu de bois. C'est la cuisine communautaire pour plusieurs maisons?
Exactement, ça c'est la cuisine communautaire. Donc là, il y a le repas familial qui est en cuisson là, actuellement. Mais là, comme elle a un enfant de 6-7 mois, donc l'enfant ne va pas manger dans le repas familial. Bien donc sûr. On lui fait son repas avec la farine enrichie qu'elle a reçue au niveau du site.
Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui rentre dans la composition de cette fameuse bouillie? Comment vous la préparez?
Voilà, elle commence déjà par tremper donc la farine dans un peu d'eau, selon la texture voulue, qui doit être fluide pour un enfant de son âge. Elle met le sel et, comme elle dit, elle surveille la cuisson de la bouillie. Elle n'oublie pas de mettre le sel iodé, parce qu'on aura appris que nécessairement il faut préparer les repas avec du sel iodé pour les enfants, parce que l'iode c'est important pour le développement cérébral de l'enfant.
Après, vous mettez 15 minutes.
Est-ce que vous connaissez la composition de cette farine?
Est-ce que vous savez la farine qui est en train de faire? Oui. Oui.
Mboko, kiep, dougoup, et gete.
Donc du riz, du mil, donc avec de l'arachide.
Parfait. C'est bien riche tout ça.
C'est bien riche, exactement.
Donc il y a la quantité là. Et là, ça va être pour un seul repas pour le bébé?
Est-ce que pour ben lek rek nga kay ben agn wala pour ñaar yon ci lek wala ben yon ñaar yon
sama ko togué ñaar yon la ci lek.
Voilà, c'est pour deux repas
oui, l'enfant. Parce que je voyais la quantité, je me dis, si le bébé il mange tout ça, c'est qu'il a un sacré appétit quand même, hein.
C'est ça, donc c'est pour deux repas.
Il est toujours tranquille, il dort la bouche grande ouverte. Il a beaucoup de chance, il est trop petit pour avoir un masque.
C'est ça, exactement.
Et donc, il mange à la cuillère, la bouillie, ou il la prend au biberon?
Cuillère. Voilà,
à la cuillère.
D'accord. Est-ce qu'il faut que vous surveillez tout le temps pendant que ça chauffe, ou vous pouvez ressortir 5 minutes?
Elle
dit que pendant que l'eau bout, elle peut aller faire autre chose et revenir.
Alors, on est à l'extérieur, maintenant c'est un petit peu la phase théorique. J'aurais aimé savoir, comment est-ce que vous avez appris à préparer cette bouillie?
C'est
le relais communautaire justement qui m'a appris comment faire la farine et comment la préparer.
Ce petit bébé qui est dans votre dos, il a 6 mois, est-ce que c'est votre premier enfant?
Non, non.
Et maintenant sur les résultats, est-ce que l'enfant a moins de coliques, moins de maux de ventre? Est-ce que l'enfant grandit mieux?
Oui, il y a une différence pour voir ça. Parce que mon milieu, c'est qui est le lieu dans le corps.
Voilà, parce que lui, effectivement, il a moins de problèmes de santé, surtout au niveau de la digestion que ses autres frères et sœurs. Il y a des hommes. Niente, elle en a quatre.
Une question très concrète. Cette farine, ces préparations, elles sont données, elles sont livrées? C'est, on va dire tout simplement, est-ce que c'est gratuit?
Donc c'est offert.
Et donc ça veut dire qu'on n'a pas à se soucier, pas se faire de soucis quand on est une maman, de se dire, oh là là, qu'est-ce que je vais donner à manger à mon enfant? Si ce mois-ci c'est difficile, surtout qu'on a passé le Covid, c'était pas évident. Au moins, j'ai pas ce tracas-là, je sais que mon enfant va bien grandir.
Voilà, elle voit beaucoup d'avantages à cela parce que ça leur donne le temps de faire autre chose. Parce que le temps que ça prend pour aller acheter les condiments, faire toute la transformation, ça peut être difficile. Et donc pour elle aujourd'hui, ces mamans-là, c'est un gros avantage d'avoir accès à ces aliments-là pour leurs enfants. Et surtout dans le contexte de la Covid, avec des restrictions en termes de déplacement, c'était vraiment une aubaine pour elle.
Alors j'ai une dernière question, il y a l'apprentissage, il y a la livraison des produits et il y a après apprendre pour toute la famille à mieux manger. Est-ce que finalement vous avez découvert qu'en changeant la façon de manger, on pouvait aussi améliorer sa santé?
C'est ça, vraiment elle voit que c'est très important la consommation, elles ont pris conscience de l'importance d'une bonne alimentation. Et même pour les enfants, et même pour elles-mêmes. Parce que vous savez que les services commencent au niveau de la grossesse. Donc elle, en tant que maman, femme enceinte ou autre, donc il y a toutes ces connaissances-là qui sont très importantes pour elle et pour les autres membres de la communauté.
Une maman en bonne santé, c'est un bébé en bonne santé.
Okay.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci à vous.
Okay. Merci beaucoup.
Et bon appétit au bébé. Hein.
Okay. Merci beaucoup.
On a bien compris hein, cette démonstration pour apprendre à préparer. C'est quelque chose que vous avez compris au fil du temps, docteur Siméon Nanama, cette dimension très pratique. Hein. Il ne faut pas arriver avec simplement des chiffres, des statistiques, mais vraiment aller au cœur des villages, au cœur des pratiques et montrer tout ça. Il y a vraiment une forme très éducative dans cet apprentissage et également dans cette transmission des bons gestes pour assurer une bonne santé.
Tout à fait. Il faut être pratique et nous saluons ici l'engagement de ces milliers d'agents communautaires et d'agents de santé qui, à travers tous les pays, sont au contact au jour le jour avec les maires pour leur donner ces informations, pour leur donner cet encadrement afin qu'elles puissent mieux prendre soin de leurs enfants. J'écoutais la dame qui disait que le produit qu'elle utilisait était un produit qu'elle recevait gratuitement. C'est une très bonne initiative. Parce que, en général, dans la plupart des pays, on se concentre sur les conseils. Il y a cependant une barrière, souvent, qui n'est pas prise en compte. Entre recevoir des informations et être en mesure d'appliquer ces informations, il y a un fossé qui a besoin d'être comblé pour certaines familles, en particulier les familles les plus pauvres. D'où la nécessité de ne pas seulement se concentrer sur le volet conseil, sur le volet changement de comportement, il faut aussi des efforts qui apportent la composante aliment. Et ça, nous pensons que c'est à travers des programmes sociaux, des programmes d'assistance comme le programme de transfert monétaire qui peuvent permettre à ces familles les plus démunies de pouvoir mettre en application les conseils qu'ils reçoivent parce que ce n'est pas dans tous les pays que les aliments sont accessibles gratuitement, comme le cas qu'on vient de voir au Sénégal.
Et un élément très important, c'est que ces aliments correspondent aux réalités aussi nutritionnelles et des productions locales. Parce qu'on a vu, on se souvient, il y a quelques dizaines d'années, notamment certains géants de l'agroalimentaire faire du forcing, on va dire, arriver un petit peu en force pour caser leur lait pour bébé qui ne correspondait absolument pas aux réalités en termes d'hygiène, en termes de besoins pour les mamans dans une région comme l'Afrique de l'Ouest. On pense notamment à la stérilisation qui pose de gros problèmes pour les biberons, à l'eau propre également, alors que là, on l'a entendu, l'eau, elle est bouillie, donc il n'y a plus de soucis en termes de germes, en termes de bactéries. Abdoulaïka, on entend aussi le nom de ces aliments, hein. On est dans le local.
Tout à fait, et pour cette farine, je pense qu'il est aussi important de rappeler un peu la démarche que nous avons prise avec le contexte Covid. Dans le cadre de la réponse nationale que nous avons développée, nous avions prévu de doter tous les enfants qui sont suivis au niveau de nos sites de nutrition d'une quantité d'un kilogramme de farine par mois pendant 3 mois. Au total, nous avons pu couvrir plus de 195 000 enfants âgés de 6 à 23 mois et distribuer 228 tonnes de farine. Alors cette farine, elle a été acquise au niveau local. Nous avons passé commande auprès d'une centaine de groupements d'intérêt économique constitués majoritairement par des femmes qui ont pu aussi contribuer à cette lutte-là. La composition de cette farine, comme vous l'avez vu, c'est à base de céréales qui sont produites au niveau local.
Mais moi, j'ai une question pour vous. On entend les mamans en première ligne, les agricultrices en première ligne, Abdoulaïka. Excusez-moi, où sont les hommes ?
Justement, dans ce système alimentaire, les cultivateurs font partie du système alimentaire. Mais ce qui est intéressant dans l'approche de nutrition communautaire que nous avons au Sénégal, ce sont les visites à domicile. Mmh. Ce sont des occasions de regrouper les autres membres de la famille. Souvent, les hommes sont au cœur aussi de ces entreprises-là, de ces initiatives-là, telles que l'élevage de petits ruminants, l'aviculture, les jardins d'arrière-cour, qui impliquent aussi la participation de l'homme pour appuyer aux travaux qui sont autour de ces initiatives.
Abdoulaïka, en termes d'objectifs, et c'est un petit peu une question que je pourrais vous poser à tous les trois, il y a eu l'alerte de l'UNICEF, il y a eu l'alerte des institutions internationales. Est-ce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les choses vont mieux, que les choses se sont un petit peu rétablies par rapport à l'onde de choc qu'a vécu la planète et le Sénégal il y a un an exactement?
Nous sommes toujours en situation d'alerte quand il s'agit de la situation nutritionnelle pour les enfants, les groupes vulnérables, parce que nous savons que il y aurait le choc aussi post-Covid. Mmh. Aujourd'hui, nous suivons de très près l'évolution des prix des denrées de première nécessité. Mmh. Il suffit qu'il y ait une inflation pour qu'on ait directement des impacts sur la situation nutritionnelle. Donc ce que nous faisons dans nos programmes et projets, c'est d'accélérer la couverture par rapport aux services de prévention, mais aussi d'intégrer cette approche multisectorielle pour développer les interventions sensibles nutrition, telles que le renforcement de la disponibilité alimentaire par des actifs au niveau des ménages les plus vulnérables, le cash transfert. Nous sommes actuellement en train de développer dans certaines zones des transferts monétaires donc pour des ménages les plus vulnérables, pour voir comment ces ménages peuvent renforcer leur capacité de résilience face à ce choc-là. Qu'est la COVID. N'oublions pas aussi l'accès à l'eau, mais aussi l'hygiène au niveau de l'environnement des ménages, parce que ça permettrait de lutter contre certaines maladies dont le docteur Diouf parlait tout à l'heure. Et c'est vraiment des mesures de prévention aussi qui sont importantes à prendre.
En début d'émission, docteur Siméon Nanama, on disait l'UNICEF a tiré la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, vous êtes dans quel état d'esprit ? Plutôt rassuré ? Où vous avez l'impression que finalement on n'a pas pris toute la mesure des conséquences de cette onde de choc?
Ce que nous avons fait, c'est d'assister les pays à ajuster leurs programmes au contexte de la pandémie. L'idée ici, c'est vraiment d'adapter les programmes, continuer l'offre de services. Par exemple, au lieu de faire des campagnes de porte à porte pour aller rencontrer les enfants et leur offrir des services, on utilise des canaux, par exemple comme des canaux de vaccination, on passe à la routine, on essaye de faire venir les enfants au niveau de leur environnement immédiat pour leur offrir les services et éviter les attroupements. Il y a tous ces ajustements qui ont été faits. Mais de manière générale, moi je pense que cette situation à laquelle on fait face et cette crise à laquelle on fait face dans la région nécessite que l'on mette l'accent sur la prévention. Le traitement est certainement important, mais nous avons observé qu'en dépit de plusieurs années où on s'est focalisé sur le traitement, on ne voit pas les chiffres baisser.
Et on a vu ça avec l'éducation thérapeutique. J'ai une question très importante aussi en conclusion avec vous, docteur Nanama, l'UNICEF. Aujourd'hui, les pays riches sont en crise. Alors, on se pose la question au niveau des moyens, au niveau de l'intérêt. il y a véritablement un risque de repli sur soi, un risque de penser moins solidaire, déjà dans un monde qui se referme. Déjà avant la crise, la situation était complexe, la crise l'a aggravée. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque de repli international dont la région Afrique de l'Ouest, Afrique centrale pourrait encore plus pâtir ?
Vous avez certainement raison et nous avons commencé à le constater dans les financements, les appuis financiers que nous recevons pour pas seulement le programme de nutrition, mais pour bien d'autres programmes. La crise a eu des effets sur les économies des pays occidentaux. Cela a affecté le volume d'aide qui est apporté aux pays en voie de développement et donc ça se ressent sur nos financements. En se focalisant plus sur la prévention qui coûte moins cher, parce que le traitement est relativement cher, en faisant appel à des solutions locales, comme on en a parlé, c'est une façon, je pense, de réduire la proportion d'enfants qui passent d'une situation normale à une situation qui nécessite du traitement. Et cela a un coût qui est relativement raisonnable. Et c'est peut-être une façon de s'adapter au contexte actuel qui est marqué par une crise économique et donc par la baisse des financements.
Et on a bien compris tout le sens de cette expression du cercle vertueux. Je vais vous donner le mot de la fin. Je vais vous céder le mot de la fin. Vous, médecin, pédiatre, docteur Jean-Baptiste Diouf, justement, on insiste sur cette fameuse prévention, prévenir la malnutrition. S'il fallait donner des bons conseils, là, on regarde pas les chiffres, on parle pas de théorie, on s'adresse aux mères de famille, on s'adresse aussi aux pères de famille. Quel bon conseil pour éviter justement de tomber dans une situation de malnutrition dont on n'a pas forcément conscience?
Les conseils à donner au maman, au papa, vont tourner bien sûr autour des bonnes pratiques de l'alimentation, mais cela suppose la disponibilité en amont de ces aliments. Ces bonnes pratiques de l'alimentation, c'est tout ce qui tourne autour des vertus, des avantages de l'allaitement maternel, mais également d'une bonne diversification alimentaire avec l'utilisation de nos mets, de nos plats locaux. Mais également, ces conseils vont concerner également la lutte contre les maladies de l'enfance. Voilà.
Et une bonne vaccination.
Oui. Donc la lutte contre ces maladies passe forcément par une bonne prévention à travers la vaccination, mais également à travers l'assainissement et la lutte contre le péril fécal. Apporter de l'eau et faire plus attention à l'hygiène.
Merci, merci beaucoup à tous les trois. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé. Également merci à toutes les personnes rencontrées à l'occasion de ces reportages. Une émission préparée en partenariat avec le Fonds français Muskoka qui agit pour la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile dans 8 pays d'Afrique francophone. Priorité Santé, de retour dès demain à Paris. Et au lendemain du jugement rendu dans le procès du Mediator, nous vous proposons d'échanger avec le docteur Irène Frachon, pneumologue, lanceuse d'alerte, qui avait révélé cette affaire Servier-Mediator et qui a mis en lumière les conséquences dramatiques des conflits d'intérêts en matière de santé. Portrait d'Irène Frachon demain dans Priorité Santé. On se retrouvera dès 9h10, temps universel.
C'était Priorité Santé avec Sunoa Assurance IARD-RDC qui assure vos biens, votre responsabilité et votre patrimoine financier. Retrouvez-nous à Kinshasa, immeuble Blue Waves Tower. Sunoa Assurance, notre métier, l'assurance.
Autour de la question.
Caroline Lachowski.